Il est 6h40, c'est l'heure du journal des idées. Avec vous, Jacques Minier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Jacques, la 23e édition des rendez-vous de l'histoire de Blois se tient en ce moment et jusqu'à dimanche. Le thème retenu cette année, c'est gouverner.
Oui, Souleymane Bachir Diagne prononcera la conférence inaugurale vendredi sous le titre « L'ombre de Dieu sur Terre ». Une analyse du concept de califat. L'expression « l'ombre de Dieu sur Terre » est due au philosophe médiéval Al-Farabi pour désigner la fonction cosmique du calife. Administrer la cité, comme pour le philosophe roi de Platon, la fonction de celui-là seul qui peut inscrire dans le cours des affaires humaines l'ordre qui règne dans le cosmos, précise Souleymane Bachir Diagne dans Le Monde. Aboli en 1924 par la Turquie républicaine, le califat que les fondamentalistes rêvent de restaurer n'est pas consubstantiel à la religion musulmane. C'est le message délivré par la Grande Assemblée nationale turque. Mais l'institution est restée pour de nombreux musulmans le symbole d'un âge d'or dont le retour dépendrait de sa restauration. Au même moment, et à l'opposé, s'ouvrait la promesse et la visée d'une reconstruction de ce que voudrait dire gouverner aujourd'hui dans les mondes musulmans. Le mot calife signifie lieutenant, littéralement celui qui tient lieu de Dieu, son représentant. S'appliquant d'abord au prophète, son sens évolua dès lors que la question politique de sa succession se posa. De successeur, il devint synonyme de commandeur des croyants qui s'imposa comme la manière de s'adresser au calife. Souleymane Bachir Diagne rappelle que selon la tradition, les titres calife et émir des croyants furent choisis par humilité par des dirigeants qui se définissaient seulement comme celui qui occupe la place et celui qui est responsable des affaires des musulmans. Tout souci d'humilité a disparu, ajoute le philosophe, a disparu du titre lorsque, devenu dynastique, il a eu pour fonction de magnifier la puissance impériale d'un souverain qui n'hésitait pas à accepter d'être considéré comme l'ombre de Dieu sur terre. Aujourd'hui, comment penser l'islam comme l'unité d'une communauté dans sa diversité sans le symbole du califat? L'un des penseurs les plus importants de la réforme, Mohamed Iqbal, mort en 1938, évoque l'idéal d'une famille vivante de république. Comme le rappelle Souleymane Bachir Diagne, les exégètes se sont demandé ce qu'Iqbal entendait par là. La bonne réponse est que lui-même ne le savait pas puisqu'elle est à inventer. Gouverné par gros temps, c'est l'un des thèmes au programme des débats des rendez-vous de l'histoire de Blois. Dans les pages idées de Libération, Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher parlent de leur enquête parue au Seuil sous le titre « Les révoltes du ciel, une histoire du changement climatique 15e-20e siècle ». Pour eux, il y a bien belle lurette, 5 siècles, que l'évolution des climats préoccupe au-delà des cercles scientifiques et s'invite dans les débats politiques et sociaux. Les historiens sont partis de la découverte d'un carton d'archives. Au début du 19e siècle, un ministre de l'Intérieur écrit à ses préfets pour leur demander si les climats de la France changent et si l'homme est responsable. Les réponses montrent que la question ne surprend pas, car elle est déjà inscrite dans les mentalités. On sait par exemple, dès le 18e siècle, que les forêts jouent un rôle important dans l'évapotranspiration et qu'elles sont garantes des pluies et donc de la production agricole, d'où très vite les enjeux de pouvoir, d'affrontements politiques, de rapports de domination. Les paysans sont accusés de mal gérer la ressource et les écosystèmes. Pour les partisans de la restauration, la noblesse, par son enracinement historique, est celle qui peut, par excellence, penser le temps long. Elle est donc vouée à gérer les forêts et donc le climat. Fini les communs des populations rurales, ressources indispensables pour le bois, le pâturage, l'engrais, le gibier. C'est déjà vrai sous la Révolution, malgré la confiscation des forêts appartenant à la noblesse et au clergé. La défense de l'environnement devient une arme politique. Sur le site La Vie des Idées, Sylvain Mechler rencontre du livre de Tim Bartley, des règles sans droit, la terre, le travail et l'autorité privée dans l'économie mondiale, un ouvrage paru à Oxford University Press et non encore traduit. Il analyse les normes du travail en milieu forestier dans deux pays asiatiques, la Chine et l'Indonésie. Pour le sociologue, les règles qui gouvernent la mondialisation de la production sont un échec, car elles font fi du contexte au sein duquel elles s'implantent. Pour faire bonne figure, les grandes marques imposent des normes écologiques ou sociales facilement contournées par les sous-traitants au mépris des droits. Et ce, quelle que soit la marge, quel que soit, pardon, le degré d'autorité de l'État.